vais pas faire comme prévu, voilà. Je bouge un peu pendant les prédications, alors voilà, je me connais. Même si on a beaucoup prié, je vais encore prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions vraiment, vivement, de pouvoir être encore là, à tes pieds, comme Marie était à tes pieds, quand Marthe s'affairait. Nous nous voulons être à tes pieds maintenant, Seigneur. On veut entendre ta voix. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et Seigneur, alors que je vais parler, je te prie surtout que ton esprit puisse communiquer ta volonté au cœur de chacun, chacune, que tu puisses être l'enseignant pour nos âmes, Seigneur. Nous remettons vraiment ce moment d'écoute de ta parole pour qu'il puisse porter du fruit. Amen. Je pensais à votre assemblée donc il y a quelques temps, peut-être 10 jours, demandant à Dieu qu'est-ce que tu veux leur dire par ma bouche. Et c'est comme si la réponse m'était venue en lisant un livre. Je lisais un livre qui a été écrit par un pasteur baptiste du 19e siècle que vous connaissez peut-être, il s'appelle Charles Spurgeon. Et Charles Spurgeon, il a écrit un livre qui s'appelle « Je vous ferai pécheur d'hommes ». Ce petit livre, il est assez connu. Il donne plein de conseils à tous les étudiants de l'école pastorale dont lui, il était le directeur. Et au chapitre 15 de ce livre, Charles Spurgeon, il commence à parler du zèle, d'être zélé. Et la manière dont il a parlé du zèle, ça m'a beaucoup interpellé, personnellement. Et alors que j'étais venu pour annoncer des choses par rapport à l'annonce de l'évangile aux musulmans, finalement, la question du zèle, elle rentre aussi en compte. Comment est-ce que nous, on est zélés pour telle et telle chose? Et je ne vais pas du tout vous parler de l'islam, des musulmans. Ça, c'était hier. Là, je suis juste venu avec une exhortation. C'est dimanche matin. Et j'aimerais vous lire ce que Charles Spurgeon écrit. Il dit, si on me demande quelle est chez le serviteur de Dieu la qualité la plus essentielle pour s'assurer de gagner des âmes à Christ, je réponds le zèle. Et si on me pose la question une seconde et une troisième fois, je ne changerai pas ma réponse. Mon observation personnelle me pousse à la conclusion qu'en général, le vrai succès est proportionnel au zèle du prédicateur. Des âmes grands ou moindres réussissent s'ils sont vraiment en vie devant Dieu et échouent s'ils ne le sont pas. Et un peu plus loin, il dit « J'aime beaucoup cette remarque de Murray, McShane, Dieu ne bénit pas tant les grands talents qu'une grande ressemblance à Christ. En de nombreux cas, le succès dans le ministère remonte à presque entièrement à un zèle intense, une passion dévorante pour les âmes, à l'enthousiasme contagieux pour la cause de Dieu. Je pense que dans chaque cas, les âmes prospèrent dans les services de Dieu en proportion de l'intensité du feu sacré qui brûle dans leur cœur. » Alors moi, je ne suis jamais très à l'aise quand on parle de succès par rapport à la parole de Dieu ou comment, par rapport aux choses de Dieu. Le succès personnel, ce n'est pas un objectif que le chrétien doit avoir, cette gloire, ce succès. L'apôtre Paul dit « N'aspirez pas aux choses élevées, mais aspirez à ce qui est humble. » Et je n'ai pas envie d'insister sur la question du succès, ce n'est pas du tout ça la question. Mais je pense aussi que Charles Spurgeon ne pensait pas à ça. Lorsqu'il disait ces mots, il pensait au vrai succès. Il ne dit pas le succès, il dit le vrai succès. Et le vrai succès, c'est les fruits qui découlent de la prédication, dans son contexte à lui, de quelqu'un qui est réellement zélé. Quand quelqu'un est pleinement rempli de zèle, de feu, il y a comme quelque chose qui se communique et ça porte du fruit. C'est ce qu'il semble dire. Et bien sûr, là, Charles Spurgeon, il parle à des futurs pasteurs, et on n'est pas du tout tous appelés à faire des prédications devant l'Assemblée. Mais il y a une chose que je retiens dans ce qu'il écrit et que je trouve profondément vrai, c'est qu'on est tous à être, appelés à être des serviteurs zélés qui portons du fruit. Et quelle que soit notre situation, ça, c'est vrai. Et je crois personnellement que des fois j'ai délaissé la question du zèle parce qu'elle me paraissait presque artificielle. J'avais peur de surjouer, de faire du théâtre. Le zèle, c'est pas crier, transpirer, taper fort du pied pour convaincre les gens. C'est pas ça le zèle. Le zèle dont il est question, c'est un feu qui brûle à l'intérieur de manière si puissante qu'on ne peut plus le contenir et qu'on veut apporter avec tout ce qu'on a, l'Évangile, la bonne nouvelle qui nous habite. Et Charles Spurgeon, il parle de ça. Mais ce n'est pas une performance. Ce n'est pas une performance religieuse. Et Jésus, il dénonçait les performances religieuses. Il dénonça notamment dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 6, 5, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Donc, je voulais introduire en disant « Je ne veux pas parler de ça. Je veux parler du vrai zèle. Celui qui coule d'un cœur qui a vu la gloire de Christ et qui veut le communiquer. » Et ce zèle, en fait, c'est une qualité dont les apôtres nous ont parlé, dont la Bible nous enjoint à la posséder, et c'est une qualité divine. C'est un attribut de Dieu, le zèle. Donc, dans Ésaïe 26, 11, il est écrit « Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas, ils verront ton zèle pour le peuple, ils en seront confus, le feu consumera tes ennemis. » Le zèle pour ton peuple, le feu consumera tes ennemis. Et dans un deuxième verset d'Ésaïe, au verset 32 du chapitre 37, il écrit « Car de Jérusalem, il sortira un reste. » C'est trop fort ? Ok. « De la montagne de Sion, des réchappés. » Voilà ce qui fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc là, on a deux versets. Deux versets qui sont comme les deux facettes d'une même médaille. Dans le premier verset, on parle d'un zèle qui remplit, qui est là et que Dieu est comme s'il était plein de zèle et le remplit d'une fureur contre ses ennemis. Et plus précisément contre les ennemis du peuple. Dieu, il a un zèle, il a quelque chose en lui qui brûle contre ceux qui s'en prennent à son peuple. Et dans notre église, on est en train de faire une série sur le livre de l'Apocalypse, et on est arrivé la semaine dernière au chapitre 17, et on voit en fait le zèle de Dieu qui s'abat sur Babylone la grande ville, la grande prostituée, et on voit que les jugements de Dieu sont sévères, et que une des raisons, c'est parce que cette ville est dans la luxure, cette ville est idolâtre, mais aussi parce qu'elle persécute les témoins de Jésus. C'est écrit comme ça. Donc Dieu a un zèle qui prend la forme du jugement et qui est là en lui. Ça, c'est ce qui est écrit un petit peu dans le premier verset, « Le feu consumera tes ennemis ». Et la deuxième face de la médaille, c'est ce que je viens de vous lire dans Ésaïe 32. « Car de Jérusalem, il sortira un reste de la montagne, de Sion, des réchappés. Voilà que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Il parle d'un petit peuple, d'un reste fidèle. Et d'ailleurs, Paul nous en parle dans Romains 11, 5, de ce reste fidèle. Et ce reste fidèle, c'est des croyants qui vont échapper au jugement. Et le zèle de Dieu ne le pousse pas seulement à consumer ses ennemis, mais le pousse à faire grâce à ses élus. Il a un zèle qui va dans deux directions. Et ce reste fidèle, bien c'est les apôtres qui ont cru à Jésus, en Jésus, notamment, au milieu d'un peuple qui n'ont pas cru en lui. Et c'est tous ceux qui les ont suivis parmi les Juifs, et on est les héritiers de ceux qui ont cru, de ce reste fidèle, nous qui sommes entrés dans la foi. Et Ésaïe, il prophétisait par avance la venue de Jésus. Vous savez, dans Ésaïe 9, 5 et 6, et même 7, on a cette prophétie connue, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je suis persuadé que vous connaissez ce verset. Mais celui qui nous intéresse, c'est le verset qui vient juste après. Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le zèle de l'Éternel des armées va donner la paix. Le zèle de l'Éternel des armées va donner au royaume de David une paix sans fin et un accroissement qui va durer. Voilà le zèle de Dieu. Le trône de David, c'est quoi? C'est une image. Bien sûr, David était un roi, il était assis sur un trône. Mais Jésus est appelé le fils de David. Et le trône de David, c'est la royauté. Et notamment la royauté du Messie qui vient. Le zèle de Dieu a fait qu'il a envoyé cet enfant qu'on appelle Dieu puissant pour prendre la place du Messie et venir à la croix pour nous et nous réconcilier avec Dieu et instaurer la paix entre nous et le Père. Le zèle de l'Éternel est directement connecté à la paix pour le monde. Le zèle de Dieu, c'est de nous sauver par grâce en envoyant son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est le zèle de Dieu. Soit nous sommes les héritiers de son zèle qui nous amène dans la grâce, soit nous serons les héritiers de son zèle qui nous feront subir le châtiment. Mais Dieu est rempli de zèle. Et donc vous comprenez que si je veux vous parler du zèle aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui vous pousse à imiter l'Éternel. L'Éternel nous dit « Soyez saints comme je suis saint ». À imiter le Seigneur Jésus qui, par amour pour nous, par un zèle qui le consumait, est allé mourir à la croix pour nos péchés, a pris sur lui la colère que nous méritions. Voilà le zèle du Seigneur. Un zèle qui se sacrifie pour nous. Et c'est dans cette vision-là du zèle qui vient de Dieu que doit s'enraciner notre compréhension du zèle en tant que croyant. Mon zèle à moi a aussi quelque chose à voir avec la réconciliation de ceux qui ne croient pas en Jésus, pour l'instant, avec le Père. C'est une qualité qu'on doit découvrir, qu'on doit chérir. Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 10, il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. C'est un ordre. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Comment est-ce qu'on le reçoit pour nous ce matin? Est-ce que tu as du zèle? Est-ce que tu as perdu ton zèle? Est-ce que tu as perdu le feu sacré dont Charles Spurgeon parle? Est-ce que tu t'es refroidi? Est-ce que tu as perdu ta saveur? Ou est-ce que tu as du zèle? Est-ce que tu prends au sérieux la question du zèle? Parce que c'est le zèle qui animait notre Dieu pour venir nous sauver et qui veut nous communiquer par l'Esprit. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui habite en toi? Ou est-ce que tu as laissé ce zèle passer? Dieu nous appelle à être zélés. Pire, il nous l'ordonne. Soyez zélés. Je me rappelle le jour où Jésus m'a convaincu de son existence et de son amour. C'était il y a 21 ans. Mon meilleur ami, mon ami d'enfance, Benjamin, m'avait invité à une soirée d'évangélisation dans une salle assez lugubre du 20e arrondissement de Paris. sorte de sous-sol, un souterrain où personne n'aurait voulu aller. Et là, il y avait à peu près 150 personnes dans cette salle. Moi, à l'époque, j'étais athée et j'avais décidé de suivre mon peuple parce que je le connaissais depuis des années. Et je lui ai dit, bon, ça fait des années que tu me bassines avec Jésus, donc je vais aller voir ta secte. Alors, j'avais quand même vécu avec lui déjà un moment où Dieu s'était un peu manifesté, mais j'avais vite mis ça sous le tapis et j'avais oublié ça depuis 3 ans. Et j'arrive là-bas et je découvre une salle avec un homme qui est devant, un prédicateur, un indien, un ancien prêtre hindou qui s'appelle Ram Babu. Et c'est l'homme le plus zélé que j'ai jamais vu de ma vie. Et lorsqu'il annonce l'évangile, on est comme plongé directement dans le film. On est avec Jésus. Et il parlait de cette parabole, enfin pas de cette histoire, où le paralytique descend du toit et il nous parle de ça. On a l'impression qu'on tire nous-mêmes les cordes, qu'on est là, on est dedans. Son zèle m'a transporté dans l'évangile. Et alors qu'il était en train d'annoncer l'évangile, j'ai senti la présence de Dieu tomber sur moi. Je me suis senti comme pétri. Je sentais Dieu, vraiment. Et Ram Babu s'est arrêté et il a dit, il y a quelqu'un qui en ce moment sent la présence de Dieu de manière particulière là. Et moi j'étais venu en me moquant de mon ami. C'était des années que je me moquais de lui, j'étais un athée. Je disais que croire en Dieu c'était une stupidité pour les faibles. Sa présence était devenue tellement oppressante pour moi. Et ce monsieur-là, il dit, il y a quelqu'un qui sent la présence de Dieu là. Et dans ma tête, je me dis, jamais de la vie, ils le sauront. Et là, il dit, peut-être que tu dis, jamais de la vie, ils le sauront. Peut-être que tu te dis que ce serait une honte de t'avancer. Mais c'est le moment, parce que si tu veux savoir si Dieu existe, il veut te le dire, il veut te le montrer. Je dis, waouh, où est-ce que je suis tombé là? Alors mon cerveau il dit non, papa, mais mon corps il était déjà en train de s'avancer. Et Ram Babu, il a prié pour moi. Il n'a pas seulement prié pour moi, il m'a demandé de prier. Il m'a engagé et j'ai prié. Et au moment où j'ai fini de prier, un amour et une puissance de Dieu m'a traversé, m'a convaincu qu'il existait. Depuis ce jour, je ne suis plus athée, depuis ce jour, je sais que Dieu est. Il existe. Il se manifeste dans sa présence, par sa présence. Et donc, une question que je me pose aujourd'hui, c'est d'où venait le zèle de Ram Babu? D'où venait son zèle? Il y a de nombreux orateurs dans le monde, des grands politiciens qui parlent avec une magnifique rhétorique, des profs incroyables. Mais chez Ram Babu, c'était pas ça. C'était pas la même chose. Je ne sais pas comment vous dire, parce que c'est surnaturel. Mais il y avait quelque chose d'Étienne quand il parlait avant de se faire lapider. Il y avait quelque chose de Paul et des prophètes. Où là où ils allaient, l'atmosphère changeait. Quelque chose du royaume de Dieu était manifesté sur terre. Ça vient de l'Esprit Saint. Et le zèle qui doit nous habiter, c'est un zèle qui ne vient pas de nous. C'est le zèle de l'Éternel pour les perdus qui nous traversent. C'est ça, le zèle qui était sur un peuple. C'est ce zèle qui fait de nous des vrais instruments de Dieu. Lorsque Jésus était sur terre, il a dit cette phrase, et je te remercie, Aurore, pour ta prière tout à l'heure, comme me confirmait le thème de ma prédication. Vous êtes le sel de la terre. Je vais parler après de la lumière, c'est pour ça que je dis ça. Parce que tout à l'heure, tu as dit, lorsqu'on nourrit notre relation avec Dieu, on peut faire de nous des lumières dans le monde. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi elle lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est une parole qui fait peur. Si j'ai perdu mon zèle, Mais en fait, c'est une question qui mérite réflexion. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Qui a créé le sel ? Vous avez le droit de répondre. C'est Dieu. Qui a créé la saveur ? C'est Dieu. Si tu as perdu ton zèle, qui peut te redonner ton zèle ? C'est Dieu. La suite du passage dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Parfois, on a perdu son zèle. Parfois, on a perdu sa passion. Parfois, on a l'impression que je ne sers plus à rien, si ce n'est à être jeté dehors. Si vous avez déjà senti ça, vous êtes normaux. Ne vous laissez pas accabler trop longtemps. Ne vous laissez pas neutraliser par l'ennemi trop longtemps. Dieu, il a un plan. Et Jésus, il t'a sauvé. Et il y a une phrase qu'il dit souvent, c'est que Jésus, il sauve bien. Il t'a pas sauvé pour te perdre. Il t'a sauvé. Et il sauve bien. Il dit que personne n'arrache ce que le Père lui a donné de sa main. Ok ? C'est beau, ça. Donc si tu as perdu l'espoir, si tu penses que ta vie est trop remplie de péché, si tu penses que tu es profondément dans les ténèbres, si tu ne vois pas la porte de sortie, eh bien j'ai envie de te dire l'unique porte de sortie, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui va te redonner ta saveur, c'est lui qui va te redonner ton goût. Je n'ai pas prévu de dire ça, mais je veux témoigner quelque chose. Lorsque j'avais à peu près 22-23 ans, j'ai fait une profonde dépression. J'avais eu beaucoup de problèmes personnels et des problèmes spirituels assez forts. Et ce qui était bien, c'est que j'ai rencontré Pauline à cette époque, donc elle m'a bien aidé. Elle avait compris la grâce beaucoup mieux que moi. Et elle me disait, Rémi, attends pas d'être pur et parfait pour entrer dans la présence de Dieu. Mais rentre dans le lieu saint et là, Dieu va te purifier. Je suis allé à l'église, ça me fait un peu ça de temps en temps quand je prêche, un peu motif. Je suis allé à l'église, c'est l'église réformée, l'église à Paris. Et il y a un gars qui est venu me voir et qui me dit, j'ai prié pour toi, on ne se connaissait pas. Et il m'a dit un peu ce que Dieu lui avait dit sur le cœur. Et pendant qu'il me disait ça, moi, j'ai eu une vision. Et c'est comme si Dieu me montrait mon état. Et donc, il me montrait un verre d'eau. Au fond de ce verre d'eau, il y avait un morceau de charbon. Et moi, vous savez, quand j'étais plein de péchés, plein de doutes, que je pensais que j'avais perdu mon salut, oui, si ça vous est arrivé, on peut en discuter. Je me sentais tellement au fond du gouffre, tellement dans la dépression, que j'avais peur en fait d'entrer dans la présence de Dieu pour qu'il me change, pour qu'il me transforme. Parce que j'avais l'impression que ça allait être comme si on me mettait sur le billard et qu'il allait m'ouvrir le bidon en deux, que ça allait être dur et que j'allais souffrir et que son jugement allait me tomber dessus. J'avais peur. Et c'est à ce moment-là que j'ai cette vision et que Dieu me dit, regarde, tu vois le charbon là, bah c'était peur, c'était en péché, c'est... tout ce qui spirituellement est noir en toi, et toi tu as peur d'entrer dans ma présence. Mais moi mon plan c'est ça. Et j'ai vu une sorte de pichet d'eau qui tombait du ciel et qui remplissait le verre. Et le charbon a commencé à monter tout naturellement et à sortir. C'était doux. C'était pas compliqué. remplir à nouveau. Et des choses mauvaises vont sortir. C'était simple. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, la seule place où je veux être, Seigneur, c'est dans le Saint des Saints, avec toi. Je ne mérite pas d'y être. Mais c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Dieu nous appelle à ça. Et c'est là qu'on retrouve un zèle qui était perdu. Alors, peut-être que vous avez vous aussi terriblement besoin d'une expérience vive du Saint-Esprit. Je vais vous dire, elle est là, elle est à portée de main, elle est pas loin. Elle est là, elle est dans le lieu secret, elle est dans ta chambre, elle est là où Christ nous a appelés, dans la prière. Elle est juste là, juste là. Et on a besoin d'un tout petit grain de foi. Une foi comme un grain de moutarde, c'est ce qu'on a chanté. Le zèle véritable de Dieu, il nous porte au-delà de nous-mêmes et nous porte à proclamer l'évangile aux nations. Jésus déclara ses contemporains, « Vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande ?» Et moi, je trouve que c'est une parole bizarre. Moi aussi, je suis très calviniste. Dans le sens où je crois que c'est l'esprit qui fait que je suis régénéré, c'est l'esprit qui fait que j'ai foi en Dieu. C'est l'esprit qui précède, c'est lui qui est premier en tout, c'est lui qui m'a attiré, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a rempli. Mais dans ce verset, Jésus nous demande de demander l'esprit. Il nous dit de prendre une initiative. Jésus ne veut pas seulement qu'on soit régénéré, il veut qu'on vive la plénitude du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis de l'Esprit, dit Paul. Comment est-ce que Dieu va réanimer ton zèle perdu? Dans deux endroits, j'ai commencé à te dire, le premier c'est au cœur de la prière. Au cœur de la prière. La première fois que j'ai vraiment prié, en fait, c'est quand Rambabou m'a demandé de prier. Et le fruit de cette prière, c'était une vie qui m'a traversée, qui m'a transpercée. Et j'ai prié tout mon cœur. J'ai prié avec sincérité. J'ai prié, mon Dieu, que je ne connaissais pas encore, mais j'ai prié tout mon cœur. Dieu voit dans le secret et il te le rendra. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais il va me rendre quoi? Et je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on est dans le lieu secret où Dieu nous communique quelque chose. Il nous communique quelque chose de lui. Il nous communique quelque chose de sa vie. Dans le lieu secret. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit le secret te le rendra. Moi, c'est un défi que je veux vous lancer ce matin. Retournez dans votre chambre ce soir. Vraiment. Priez. Face à face avec papa, il va vous faire du bien. Il va vous rappeler ses promesses. Peut-être vous allez pleurer. Vous allez confesser vos péchés. Vous allez prendre des décisions. Mais tardez pas, attendez pas. Vous ne serez jamais parfait. On est sanctifié par sa présence. Pas avant d'entrer dans sa présence. Pas par quelconque loi. Pas par une quelconque œuvre, il nous sanctifie. Deuxième domaine où Dieu va renouveler sa vie en toi et son zèle en toi, c'est la mission. Moi, vous m'avez invité pour vous encourager à annoncer l'évangile aux musulmans. Et maintenant, la question se pose, est-ce que vous êtes venu pour prendre des notes et rentrer chez vous ou bien pour mettre ça en pratique? Parce que franchement, j'ai bossé hier. Je suis pas venu pour rien. Mais ça ne dépend pas de moi après. Ça ne dépend plus de moi. Mais une chose que je vais vous dire, Je le répète, Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit dans ce passage que votre lumière luise devant les hommes. Alors, peut-être tu crois que tu es dans les ténèbres. Je vais dire, c'est faux. C'est un mensonge. Là, tu vas me dire, Rémi, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas mes souffrances, tu ne connais pas ma maladie, tu ne connais pas mes détresses psychologiques. Je dis, oui, peut-être, mais un, je connais celle de Job. Et une lumière, c'est une lumière qui brille, Job. Deux, je connais celle du Seigneur. J'ai appris que le Seigneur a souffert, qu'on lui a craché dessus, qu'il a été humilié, brisé, crucifié, abandonné, trahi, et il est la lumière du monde. Alors, je ne sais pas c'est quoi tes souffrances. Mais ce que ce texte dit, c'est que tu es la lumière du monde et que tu n'es pas ténèbres. Par contre, le texte dit que parfois, tu es sous le boisseau. Alors, oui, des ténèbres peuvent t'entourer, mais non, tu n'es pas ténèbres. Et l'ennemi veut te faire croire que tu es en toi ténèbres. Non, si tu as cru en Jésus, qu'il vit en toi, tu es la lumière des nations et ta lumière doit briller devant les hommes. Et il va te demander des comptes pour ça. Et tu ne pourras pas juste dire « je me sentais mal ». Tu ne pourras pas juste rester dans ton apitoiement. Vous savez, l'apitoiement, c'est un péché dont il faut se repentir. Ça, on l'oublie, ça. Bien sûr qu'on a des détresses. Bien sûr qu'on a mal. Bien sûr qu'on n'en peut plus. Bien sûr qu'on a besoin de parler les uns aux autres, de se confesser. Mais ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que parfois, on reste dans un état sous le boisseau, alors que Dieu nous a dit non. Comment est-ce que tu vas passer des ténèbres à la lumière? Ça se résume en un seul mot, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le sacrifice de Jésus et la grâce qui en découle n'est pas épuisée. Et parfois, on a le sentiment que mes péchés accumulés sont trop hauts. Ça y est, c'est trop. Je me suis trop rebellé contre Dieu. Je suis allé trop loin, profondément dans le mal. Est-ce que tu penses que tu as trop péché pour que Dieu te sauve? Si tu penses ça, tu es dans l'orgueil. Tu penses que l'amour de Dieu n'est pas assez infini pour engloutir ton péché? Tu penses que le péché de toi, une créature, va être trop grand pour l'amour de Dieu? Quelle révélation t'as du sacrifice de Jésus? Quelle révélation t'as de sa grâce et de sa compassion? Elle est minus. On ne peut pas mesurer la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Et son amour a été manifesté à la croix. Donc le premier domaine, c'est le domaine de la prière. Laisse-toi réconcilier avec Dieu dans le lieu secret. Laisse-le verser son eau vive dans ta vie. Faire sortir ces choses qui t'empêchent d'être rempli de zèle. Laisse-toi renouveler et son zèle va se traverser à nouveau. Et Dieu va être une lumière qui brille. Deuxième domaine, c'est le domaine de la mission. Vous savez, quand Jésus dit que ta lumière luise devant les œuvres, devant les hommes, il dit afin que il te glorifie le Père en voyant les œuvres que vous faites. Alors les chrétiens, les protestants, on se méfie de la prédication du salut par les œuvres, mais on ne prêche pas assez les œuvres. Bien sûr, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais Dieu a préparé des œuvres de toute éternité d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a un proverbe français qu'on connaît bien, l'appétit vient en mangeant. Bien moi, je vous dis que le zèle vient en œuvrant. Le zèle vient en œuvrant. Jésus a été très clair. Obéissez. Il ne dit pas « attendez que le zèle vienne ». Il dit « allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit. Et moi-même, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors oui, on doit attendre à Jérusalem l'Esprit Saint, mais vous l'avez déjà. Allez, allez. Et ce que j'adore dans ce passage, c'est que Jésus lui dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai compris il y a quelques années et que je crois que trop de chrétiens n'ont pas encore saisi. C'est qu'un chrétien heureux, c'est un chrétien en mission. Et que la plupart des chrétiens malheureux que je connaisse, c'est des chrétiens qui ne sont pas en mission. Pourquoi ? Parce que le chrétien, sa vie, c'est quoi ? C'est d'avoir abandonné toute chose pour Christ. Or, Christ, il est où ? Là, il dit quelque chose d'assez spécial. Il dit, allez, faites, et je serai avec vous. En fait, ce verset, il s'adresse à ceux qui font, à ceux qui sont en mission. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec ceux qui ne sont pas. Mais il y a une qualité de présence particulière quand on est en train de faire quelque chose dans les voies du Seigneur. Il nous donne sa présence de manière particulière. Et moi, quand je suis dans la rue, que j'annonce l'évangile, je le sens. Je sens profondément que Christ est là. Mais comme j'ai tout abandonné pour Christ et que Christ est au front, auprès des plus pauvres, des démunis, si je ne suis pas au front, je suis malheureux parce que je ne suis pas à l'endroit où Christ est. Mais moi, je veux être avec mon bien-aimé, mon Seigneur. Je veux être à ses pieds. J'aime être en mission parce qu'en fait, c'est un moment privilégié avec le Seigneur. Je ne suis pas en mission, premièrement, pour faire. Je ne suis pas en mission pour... même pas pour ma compassion pour les gens dehors, je suis en mission parce qu'il y a Jésus. J'aime être avec Jésus. Au cœur de la mission, le zèle est ravivé. Et dans Matthieu 25, il y a ces magnifiques passages. Jésus dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous qui vous avez été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Et juste répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, donner à manger, avoir soif, et avons-nous donné à boire ? Et Jésus, il répond qu'à chaque fois qu'ils ont fait ça, auprès des plus petits, c'est à lui qu'ils l'ont fait. Vous n'avez pas déjà senti ce moment ? Peut-être que vous êtes dans la rue, vous êtes en train de parler avec un SDF, peut-être que vous n'avez jamais vécu ça, vous sentez que Jésus, il est là. Vous sentez que Jésus est là dans ce moment. Vous sentez qu'il se passe quelque chose. Quand on fait ces choses-là, on fait quelque chose qui nous connecte au Seigneur. Donc le zèle est ravivé dans les œuvres. Celles qui sont inspirées par son esprit, hein, parlent pas des œuvres mortes et religieuses. J'estime qu'il y a plus de tristesse à être un chrétien loin de Dieu qu'un athée dans les plaisirs. Je le redis. J'estime qu'il y a plus de tristesse à être un athée, à être un chrétien loin de Dieu qu'un athée dans les plaisirs. Parce que notre plaisir à nous, c'est Dieu. Et si je suis loin de Dieu, j'ai plus rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez tout abandonné pour Christ. Vous êtes mort à vous-même. Vous ne vivez plus pour vous-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour vous. Et si vous n'êtes pas avec lui, la vie n'a aucun goût, aucun sens. En fait, on est forcé d'être avec le Christ pour être heureux. Mais j'espère que ça éclaire quelques petites choses sur la mission. Et j'ai juste envie de prier pour que le zèle de l'Éternel nous traverse. Son zèle a fait qu'il a envoyé le Fils au sacrifice. Le zèle du Fils a fait qu'il a accepté, il a consenti d'aller au sacrifice. Le zèle de l'Éternel ça va être quelque chose qui marche dans cette direction-là, qui est aussi quelque chose qui va nous mettre en route vers une forme de sacrifice, qui va nous faire sortir de notre confort, qui va nous sortir de nos habitudes. Et ce zèle-là, c'est le zèle dont le monde a besoin, parce que Dieu a choisi l'Église pour annoncer sa bonne nouvelle. Il nous a choisi nous. Je prie pour que votre zèle soit renouvelé par l'Esprit, maintenant. Dieu Tout-Puissant, ton zèle est un feu qui consume tes ennemis. Et le jour viendra où tous ceux qui auront persécuté et maltraité ton peuple seront dans le châtiment. Et Seigneur, nous nous rappelons de ces âmes sous l'autel d'Apocalypse 6 qui dit jusqu'à quand tarderas-tu de tirer vengeance sur ceux qui nous mettent à mort. Seigneur, ton zèle est un zèle de justice qui déteste l'iniquité. Et quand tes jugements viendront, c'est ce zèle qui se manifestera. Mais Seigneur, nous te remercions de tout cœur que tu as aussi prévu que ce zèle et ce jugement tombent sur ton Fils pour nous. Que ton zèle pour la justice n'a pas été définitif, comme un déluge final, comme un jugement pour tous. Seigneur, tu as envoyé ton Fils unique. Tu l'as envoyé au sacrifice pour nous. Et ta justice, ton zèle contre la méchanceté est tombée sur lui. Merci. Mais Seigneur, je te prie qu'en esprit, nous puissions nous aussi découvrir cette autre face de ton zèle, ta grâce. Ta grâce, ton amour qui pousse à chercher ces brebis perdues, qui pousse à annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, tu veux établir la paix entre toi et ton peuple. Tu veux établir la paix et il y a encore un grand nombre de tes élus que tu veux appeler. Tu veux nous utiliser. Seigneur, je veux qu'on puisse avoir le temps devant toi, Seigneur, de nous repentir par rapport à notre manque de zèle. Notre manque d'amour, notre manque de foi, de compassion. Seigneur, je te prie maintenant que tous les bénéfices de la croix par lesquels tu as triomphé de nos péchés, de nos souffrances, de nos maladies, puissent être déversés dans nos âmes, déversés dans nos esprits de manière particulière. Que ceux et celles qui sont comme loin de toi puissent retrouver l'intimité avec toi dans le lieu secret. Que ceux et celles qui sont comme en colère contre toi, tu puisses les assister de ton esprit pour qu'ils puissent trouver une consolation. Je prie, Seigneur, que ton esprit de réconciliation nous traverse, qu'on puisse être réconciliés vraiment, profondément avec toi. Je te prie que de cette réconciliation, Seigneur, naisse un zèle intense, un feu immense pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu nous as sauvés par grâce, tu nous as aimés. Seigneur, nous ne voulons pas garder cette bonne nouvelle pour nous, nous voulons inviter le monde à entrer dans ton salut. Alors je te prie maintenant pour toute cette assemblée, puisse reposer sur cette assemblée, que ton feu soit renouvelé dans les cœurs, que ton esprit à nouveau consume tout ce qui empêche, tout ce qui entrave la mission, Seigneur. Seigneur, je te prie que notre lumière à tous brille devant les hommes par les œuvres que tu nous as préparées d'avance à faire. Je te prie pour les chrétiens heureux dans cette assemblée, qu'ils ne restent pas dans un confort loin de toi, mais plutôt à tes pieds et au fond avec toi dans toutes choses. Voilà, Seigneur, je sais que maintenant c'est ton œuvre et ton œuvre seule qui compte. Je te prie que pendant la fin du week-end, les semaines à venir, le mois qui vient, quelque chose qui change profondément pour celles qui en ont vraiment besoin, pour nous tous. Au nom de Jésus, Amen.